Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonne journée à tous, 7h45 sur RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le mathématicien Cédric Villani.
Bonjour Cédric Villani.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL ce matin. Vous êtes en effet le médiatique lauréat de la médaille Fields avec votre look de dandy baroque, formidable ambassadeur des maths et aussi l'incarnation de cette société civile si chère à Emmanuel Macron dont vous avez donc rallié la candidature. Pourquoi lui ?
D'abord parce que, comme vous l'avez dit, il y a un potentiel, quelque chose qui se dégage dans la candidature d'Emmanuel Macron, qui fait qu'il arrive avec une offre nouvelle à attirer beaucoup de talents, de gens qui ne se reconnaissaient pas dans les partis traditionnels et qui se disent que là, il y a opportunité de construire quelque chose de nouveau sans a priori. Et puis, parce que, et c'est ça qui m'a vraiment décidé à franchir le pas et afficher officiellement ce soutien à Emmanuel Macron, il y a un positionnement pro-européen qui ne pouvait que avoir une forte résonance auprès du militant pro-européen que je suis depuis des années.
Oui, on va en parler de l'Europe, mais vous avez évoqué à l'occasion d'un meeting de Lyon, je crois que c'était votre premier, le premier meeting de votre vie.
Absolument.
D'ailleurs, d'Emmanuel Macron, vous avez parlé de son courage. Pourquoi
oui,
son courage ?
Écoutez, il en fallait pour se lancer dans l'affaire. Ça a été décidé au printemps de l'an dernier qu'il se lance dans la campagne présidentielle. À l'époque, personne n'y croyait. Ça paraissait prématuré. Et en avant, toute l'affaire, mettre sur pied équipe, les équipes travaillant à peaufiner le programme peu à peu, cette grande marche. C'était vraiment courageux de se lancer là-dedans sans craindre le regard des autres, sans craindre le ridicule, et puis en sachant qu'il allait se prendre des tas d'attaques, des attaques réglo et d'autres beaucoup moins, qu'il allait être questionné, interrogé sur sa vie privée, sur ses origines. Il fallait du courage pour se lancer là-dedans.
Mais c'est un ovni, il est un ovni dans le paysage politique pour vous.
Un petit peu, en tout cas, on n'a pas vu ce genre de profil se lancer sur la scène politique française avec tant de succès depuis longtemps. En même temps, héritier de certaines tendances qu'on avait pu voir. Et pour moi qui, dans le temps, ai voté pour François Bayrou, j'ai été heureux de voir que deux des grands espoirs que je mettais dans Bayrou, à savoir l'émergence d'un centre indépendant et la possibilité pour la France de se replacer enfin en leader sur la question européenne. Ces deux espoirs qu'on n'avait pas vu concrétiser avec la candidature de Bayrou, maintenant, sont en passe de se réaliser avec Emmanuel Macron.
Alors, on lui reproche, comme vous le savez, son ambiguïté, son art de contenter tout le monde. On va prendre un exemple. L'Algérie, il a d'abord parlé des apports positifs de la colonisation et puis il a dénoncé les crimes contre l'humanité, contre le peuple algérien. D'abord, vous avez une partie de votre famille qui est d'origine algérienne.
Je suis fils de pied-noir.
Fils de pied-noir. Et c'est vrai que pour un mathématicien, j'allais dire, où est la logique de cette
et
double
c'est là,
approche
c'est là justement que je trouve qu'il est courageux aussi, Emmanuel Macron, parce que toutes les questions complexes ont des réponses complexes. Et il a le courage d'aborder les questions sous tous ses angles. C'est dangereux parce que, évidemment, les adversaires se chargent de récupérer le bout de phrase ici, les mots ici qui vont pouvoir attaquer. D'ailleurs, quand il a parlé d'Algérie, Emmanuel Macron s'est fait attaquer aussi bien sur la droite que sur la gauche. Mais la vérité, c'est que les solutions simples, ça n'existe pas, sauf dans les films, sauf dans les programmes populistes. Il y a toujours tous les grands problèmes, ils sont complexes. Et c'est vrai qu'en Algérie, il y avait un mélange de tout dans l'Algérie française. Il y avait des gens qui y allaient dans une démarche de progrès avec énormément de bonnes intentions. C'était aussi une affaire d'exploitation et une affaire d'humiliation. Il y avait tous ces aspects et on ne peut pas réduire juste un événement à telle ou telle chose.
Donc vous avez trouvé que les attaques étaient très politiciennes sur un sujet qui mérite d'être abordé avec plus de subtilité, malgré la passion, vous le savez, la passion que ça suscite.
Et oui, alors,
il faut
évidemment
faire attention avec les mots. Le crime contre l'humanité.
Le mot était sans doute maladroit, parce que ça a un sens précis, crime contre l'humanité, on peut discuter tout ça, mais c'était important que le sujet soit mis sur la table et je lui suis reconnaissant d'avoir mis le sujet de la colonisation algérienne sur la table. Il faut voir que, et là je parle d'expérience, hein, j'ai fait des conférences dans à peu près toutes les anciennes colonies françaises, l'Algérie c'est la seule dans laquelle le contentieux n'est pas éteint, n'est pas soldé. Et si on ne fait rien, on peut continuer comme ça pendant des décennies, la France refusant de reconnaître une part de culpabilité, l'Algérie refusant d'avancer.
Il faut des excuses pour vous, dans la famille.
Il faut des excuses comme un point de départ de la discussion et sera le point de départ de reconnaître le bilan, le négatif et le positif, et puis faire des choses ensemble. Moi, je crois que France-Algérie, c'est une histoire qui n'est pas finie et qu'il y a de belles choses à faire ensemble.
Vous nous avez dit que vous situiez de toute façon de longue date plutôt au centre du paysage politique. Le clivage droite-gauche, ça ne vous parle pas?
Ça n'a pas de sens.
Quand Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, qui était là à votre place hier, dit « ça crée de la confusion », vous n'êtes pas du tout dans cette...
Moi, je crois que droite-gauche, ça crée une vision simpliste et destructrice, que à chaque fois, la gauche critique les mesures de la droite et vice-versa, et on se retrouve à oublier les questions subtiles. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait attention de garder un positionnement. Quand je me suis engagé en politique dans le passé, ça a été rare, mais ça a toujours été pour suivre des personnes et pas des droites ou gauches.
Vous vous êtes engagé auprès d'Anne Hidalgo, qui, elle, est franchement à gauche.
J'ai été...
Vous avez été présidente de son comité de soutien.
J'ai été présidente de son comité de soutien, oui. Et je suis fier du travail qu'on a fait à cette occasion-là. Et avec Anne Hidalgo, je soutenais une personne qui arrivait avec déjà des réalisations importantes à son actif, une vision, et d'ailleurs... dans le discours, on va dire, d'investiture de ce comité de soutien, j'avais bien pris garde de préciser à mon auditoire que je me considérais comme ni droite, ni gauche, ni centre, empruntant même la référence d'une chanson du grand chanteur Henri Tachon pour l'occasion.
Et bien voilà, on essaiera de la retrouver. Évidemment, l'école française, Cédric Villani, est une des plus inégalitaires qui soit, malgré les moyens qui sont alloués. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est un vaste sujet, hein. C'est peut-être subtil, ça aussi, mais c'est un vaste
très
sujet.
Très subtil, sujet.
Par rapport au système étranger, qu'est-ce qui vous frappe?
Bon, on ne peut pas comparer directement les résultats du système français au système étranger. Le système français est l'un de ceux dans lesquels il y a le plus de complexité, parce que France est une terre d'immigration, et ça a fait aussi partie de la force de la science française, mais il y a des difficultés, il y a des questions d'assimilation qui sont à régler, qui sont à gérer. La France, c'est une société qui est très chamarrée, colorée.
Alors vous, quand je vous parle de difficultés de l'école, vous faites directement référence à l'immigration?
Oui, parce que la solution dans les questions d'immigration, l'école est à la fois une difficulté, une chance, une solution à trouver, et c'est l'un des grands enjeux de l'école que de faire en sorte que ça vienne dans l'intégration. La France, c'est l'un des... Quand vous regardez dans les études internationales, où on se préoccupe de voir comment il faut enseigner dans un contexte de société colorée, la France est l'une des références internationales, de même que les États-Unis. Il y a plein de problèmes qui se posent.
Donc ça, c'est l'aspect
là.
Positif, en tout cas.
Et si notre si on compare notre système au système américain, par exemple, on n'a aucunement à rougir. On a le système d'éducation française a plein de difficultés, mais ça reste une éducation de qualité.
L'Europe, il faut en parler. Alors, vous comprenez, parce que j'imagine, vous êtes chercheur, donc quand on est chercheur, on conçoit que l'Europe, ce soit le seul cadre, si je puis dire, dans lequel on puisse vraiment avancer. Mais les Français ne voient pas ça du tout, comme ça, l'Europe. Elles voient effectivement les irrégularités, ou plutôt les excès de réglementation. Elles voient un sentiment d'appartenance qui se délite. Elles n'en voient que les défauts. Vous les comprenez, ces Français, qui voient l'Europe comme un frein plutôt qu'un espoir?
L'Europe, c'est compliqué. Pendant longtemps, il y a eu une attitude, pas seulement en France, mais dans l'ensemble des nations européennes, en cas de difficulté, d'utiliser l'Europe comme un bouc émissaire, ouais. Assez facile. On voit même des doubles discours, et ça c'est très clair, de gouvernants, de dirigeants, qui vont dire à leurs électeurs, c'est la faute de l'Europe qui nous impose ceci, et aux instances européennes, il faut absolument que vous imposiez cette chose-là. Double discours. Je parle de choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on discute dans le cadre de mes activités à la Commission européenne, puisque je suis membre du Conseil scientifique de la Commission européenne, où on discute d'ailleurs de sujets qui sont important pour l'avenir. Les questions d'intégration des différents pays, on en discute. Les questions, par exemple, en ce moment, on travaille sur un rapport sur la cybersécurité. Vaste domaine.
Donc vous dites qu'il ne peut être abordé, encore une fois, qu'à l'échelle européenne. Donc pour vous, la France ne peut s'en sortir que dans le cadre de l'Europe. La sortie de l'euro, ce serait une catastrophe ? La sortie de l'euro ?
À mon avis, ce serait une catastrophe. Comme on sait, sur les questions économiques, on a des millions d'experts autoproclamés qui ont tous des avis différents et c'est très difficile de faire des prédictions macroéconomiques. Mais à mon avis, ce serait une catastrophe. Et ce qui est sûr, c'est que si la France sortait du projet européen, le projet européen s'écroulerait aussitôt. Ce qui a fait le projet européen au départ, et ce qui est toujours clé, c'est l'axe franco-allemand. Et la bonne entente franco-allemande, avec par-dessus le soutien, le concours de tous les autres pays, c'est le cœur de l'axe européen.
Merci beaucoup Cédric Villani. Je souligne juste que vous voulez ouvrir une maison des mathématiques.
Oui. Vous avez parlé des inégalités. Notre boulot, c'est de faire en sorte que tous les jeunes puissent avoir une ouverture, une culture sur ce que c'est la culture mathématique, voir comment ils ont des opportunités pour s'en sortir, beaucoup de jobs à saisir, et dans notre future maison des mathématiques, ils pourront venir voir ça.
Merci à vous, bonne journée.
Merci.
Il y a l'opportunité de construire quelque chose de nouveau avec Emmanuel Macron, qui est par ailleurs pro-européen, vient de nous dire Cédric Villani, qui affirme que les solutions simples n'existent pas, il n'existe que des problèmes et des solutions complexe. Le reste relève du populisme, nous a dit ce matin notre mathématicien français. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.